Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, qu'est-ce qu'un saint? Chaque année, c'est la question que vous pose le prédicateur. Qu'est-ce qu'un saint? Puisque nous célébrons aujourd'hui la Toussaint, nous avons communément cette conviction que le saint est celui qui, de la terre, au terme de cette vie qu'il a menée sur la terre, entre au ciel et au ciel immédiatement après sa mort. Alors, tout ça, c'est très vrai. Le saint, c'est celui qui est dans la compagnie de Dieu, qui a parfaitement répondu à sa vocation et qui est dans la gloire de la vie des saints. Mais voyez-vous, la sainteté ne commence pas au ciel. Et donc cette définition du saint est imparfaite. Le saint, il est saint dès cette terre. Qu'est-ce que le saint en réalité? Je crois que c'est encore plus vrai que cette définition que vient de donner celui qui est au ciel au terme d'une très belle vie en présence de la Trinité sainte. Le saint, c'est d'abord celui qui non seulement va monter au ciel après sa mort, mais c'est celui qui, sur cette terre, fait descendre le ciel. Je crois que c'est d'abord ça le rôle qu'on reconnaît aux saints lorsqu'on les canonise. Ils ont su, dès cette vie, de manière singulière, parce qu'il n'y a pas deux saints qui soient semblables, et parce que chacun a sa vocation propre pour cela, il a su le saint faire descendre le ciel sur la terre. Faire habiter Dieu dans son âme. Tout d'abord, vous savez qu'une sainte comme sainte Élisabeth de la Trinité avait une très vive conscience de cela. Elle disait que son âme était comme le ciel dans lequel venait habiter, ciel en réduction, en miniature, la Trinité sainte, la même que celle qui est dans le vrai ciel. Vous voyez ? Il y a chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus cette même conviction, chez Saint Ignace de Loyola, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Augustin, j'en passe, et je vous les cite en bataille, tous ces grands saints, justement, avaient compris que toute la vie chrétienne, et donc la sainteté, ne consistait qu'en cela, permettre à la Trinité sainte de descendre dans leur âme première. Il y a dans l'Apocalypse de Saint Jean, je n'ai pas lu ce passage aujourd'hui, car c'est au commun de la dédicace, que nous trouvons ce texte magnifique de l'Apocalypse de Saint-Jean, chapitre 21, une autre vision que celle des 144 000 élus, c'est la vision de la Jérusalem céleste. Voilà ce que nous dit le disciple bien-aimé, « Je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, comme une jeune mariée parée pour son époux. » Je vis la Jérusalem céleste descendre du ciel. Il ne s'agit pas seulement d'une vision de ce qui va se passer à la fin du monde, où Jésus reprend dans la gloire, enfin le ciel va s'installer définitivement sur la terre. Il s'agit d'une vision de ce qui se passe pour chacun d'entre nous si nous voulons bien devenir des saints, si nous voulons bien prêter notre concours à la volonté divine sur nous. Que la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit tout d'abord, descendent dans notre âme. Jean a eu, Saint Jean, le Fils bien-aimé, ce privilège intime, de voir réellement ce qui se passe dans l'âme de tout un chacun lorsque cette âme est sainte. Mais bien, chers frères et sœurs, qui insistent très souvent, cette sainteté-là, elle s'est produite pour chacun d'entre nous, le jour de notre baptême. La Jérusalem céleste est descendue dans notre âme. Nous avons été possédés de cette possession qui n'a rien à voir avec la possession diabolique, qui, comme tout ce que fait le diable, est une caricature de la réalité de ce que Dieu veut pour nous. Nous avons été véritablement possédés par la Trinité qui est descendue en nous. L'objet de notre vie chrétienne ne consiste qu'à réitérer cela, ou plutôt à permettre de la vie à la Trinité, en restant en état grave, en utilisant les sacrements pour cela, et en vivant une vie d'oraison, si ténue soit-elle, en fonction de notre devoir d'État. Vous n'êtes pas tous ici des bénédictins ou tous des carmélites, moi non plus. Eh bien, nous avons tout de même à laisser vivre cette Trinité sainte par une vie d'amitié divine qui s'entretient premièrement par la prière, après avoir poussé au sacrement. Vous voyez, soyons persuadés, mes bien chers frères, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Je crois que ça suffit déjà à se nourrir en réalité. Vous voyez, pour une fois, je serai bref. C'est à la mesure de cette place que nous aurons laissée à la Trinité sainte sur cette terre, à la Jérusalem céleste dans notre âme, que, évidemment, sera évalué ensuite notre rang au ciel, dans la grande Jérusalem céleste. Plus nous aurons été larges, plus nous aurons fait de la place à la Trinité sainte en nous sur cette terre, plus ce n'est que justice, La Trinité Sainte nous fera une place large lorsque nous entrerons dans la gloire du ciel. Je crois que nous n'avons pas, je suis même persuadé, que nous n'avons pas suffisamment faim, soif de sainteté. Nous nous tenons à la rigueur d'une vie chrétienne minimale, et c'est déjà très bien, c'est-à-dire à la confession annuelle, à la messe chaque dimanche, c'est très bien. Mais nous devrions avoir davantage soif et faim de cette présence de la Trinité en nous, non seulement parce qu'au ciel nous serons rémunérés à la hauteur de notre investissement terrestre, si j'ose parler en termes commerciaux, pas vraiment adéquat, mais parce que dès cette terre, en laissant la Trinité Sainte habiter en nous, nous vivons déjà d'une anticipation du ciel. Nous le savons, parce que chacun d'entre nous a déjà fait cette expérience, vivre de la présence de la Trinité en nous, nous béatifier cette terre, nous rend pleinement heureux d'une joie étrange, de cette joie dont Jésus nous dit que nul ne pourra nous la ravir. Comme nous sommes en état de grâce, nous sommes bien, voilà tout. Parce que nous sommes déjà en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme nous sommes en état de grâce, ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Dieu le sentent. C'est étonnant. Il existe un rayonnement de l'âme qui a Dieu au fond d'elle. Vous voyez donc que nous avons tout intérêt, et pour cette terre, et évidemment pour la réparation qui nous attend au ciel, à chercher à faire descendre la Jérusalem céleste du ciel. Demandons ce secret à chacun de nos saints patrons. Chacun de nos saints patrons. Nos saints patrons nous ont été donnés comme père ou mère céleste par l'imposition de notre prénom au baptême. Nous n'y prêtons pas suffisamment attention. Et parfois nous aimons notre prénom, parfois pas, qu'importe. Ce qu'il nous faut d'abord aimer, c'est notre saint patron, qui lui a su trouver la voie pour laisser la Trinité vivre en lui ou vivre en elle. Voyez, recommandez-vous à votre saint patron, votre sainte patronne, et demandez-lui aujourd'hui quelles sont les conditions qui conviennent, et ne vous inquiétez pas, ils sont tellement près de la Trinité qu'ils pourront cueillir les renseignements, et Dieu ne demande qu'une chose, c'est qu'ils viennent sur terre vous enseigner. Demandez-leur, aujourd'hui, promettez-vous intérieurement de le faire d'ici ce soir, je le ferai avec vous. Parlons à notre saint patron, et demandons-lui comment faire, aujourd'hui, quel que soit notre état de vie, nous ne soyons pas dans les clous, au plan matrimonial, au plan de je ne sais quelle turpitude, peu importe. Demandons à son saint patron comment faire pour que la Trinité, aujourd'hui, habite en nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit.